matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
SMD avec Jean Grelier. Bonjour Jean.
Bonjour Patrice et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce sport matin dimanche de ce 10 mai 2026, non pas 1926 quand même, mais 2026. Ah, ce joli mois de mai. Nous allons parler football avec une partie des championnats ce week-end ou encore aussi des matchs de rattrapage. En National 2, rien n'est fait pour la montée en Ligue 3 pour les Lyonnais, vainqueurs de Choret, mais toujours suivi à un point par les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés à 1-0 devant les Herbiers et 27 000 spectateurs. En National 3, le verdict viendra également en dernière journée pour la montée en National 2 avec le Poiré Survie qui a été défait à Nantes et qui ne possède plus qu'un petit point devant l'Union Foot Touraine. En basket, les espoirs de Cholet Basket sont champions de France et cet après-midi, l'équipe première joue face à Nancy. Les Niortais de Laurent Hay ont été défaits à Brissac pour le dernier match de leur coach, mais ont réussi l'essentiel en assurant précédemment leur maintien en National 2. En handball, les Sélois se sont largement imposés à Fleury alors que les Montcoutantaises ont bien résisté à Saint-Nazaire, mais hélas, ce ne sera pas suffisant pour assurer leur maintien en National 2. Et puis nous serons accompagnés tout au long de cette émission par Hugo Baudin, l'attaquant de la Châtellerault en National 3, qui partagera nos résultats, nos commentaires, nos interviews. Alors, restez avec nous et à tout de suite.
Quant à la météo, le ciel est plus ou moins couvert ce matin et des averses orageuses ne sont pas à exclure cet après-midi.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Bonjour Hugo Baudin, merci d'être avec nous dans ce sport matin dimanche. Alors d'abord, on va prendre des nouvelles de la blessure. On se rappelle, il y a 15 jours, donc contre Fontenay-le-Comte, tu as été blessé assez gravement, triple fracture de la clavicule. Comment ça va ce matin?
Bah déjà bonjour à tous. Bon, ça va un peu mieux suite à l'opération. Là, j'ai déjà beaucoup moins de douleurs. Donc maintenant, on va se reposer comme il faut et bien travaillé pendant la trêve pour revenir en pleine forme.
Alors on va essayer de te connaître un peu plus. Rappelle-nous un petit peu ton parcours. Tu as commencé le foot à quel âge et comment ça s'est passé ensuite dans les catégories jeunes?
Bon, du coup j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans au club de FC3C. Ensuite j'ai évolué jusqu'à l'âge de mes 13 ans où je suis parti deux petites années à Bressuire. Ça s'est pas très très bien passé. Du coup ensuite j'ai signé à Gatti Foot pendant aussi 2 ans. Et ensuite, Anatole Turpo m'a proposé de signer à Montcoutant en Régional 2. Donc j'y ai été pour 3 ans. Et ensuite, j'ai été 1 an à Neuil-Aubier. Et du coup, cette année, à la Châtaigneraie, en N3.
Alors, est-ce qu'il y a des éducateurs à travers ce parcours, des éducateurs, des entraîneurs qui t'ont marqué?
Bah, du coup, dans le monde jeune, je pense que c'était Alex Martin, à Gatti Foot, qui m'a fait découvrir le niveau régional en jeune. J'avais jamais évolué. Je suis arrivé en 8-16-R2 à Gatti Foot, du coup, On a réussi à monter en U17 R1, mais malheureusement, après, c'était la saison Covid. Puis du coup, après, qui m'a lancé dans le monde senior, bah, Anatole Turpo à Montcoutant, en R2. C'était vraiment un beau souvenir de découvrir le monde senior comme ça, à l'âge de 16 ans et demi. Et ensuite, bah, du coup, Sébastien Cuvier aussi, qui m'a vachement fait progresser pour me faire arriver au niveau National 3. Je pense que c'est lui qui m'a vraiment fait le plus progresser de tous les coachs.
Bon, on reviendra sur tous les éléments de ce parcours. En attendant, Patrice, on va passer au match de la Ligue 1, parce qu'il n'y a pas eu de match hier, seulement vendredi soir avec la victoire de Lens face à Nantes 1-0, qui malheureusement condamne les Nantais à la descente en Ligue 2, et puis rassure les Lensois qui vont pouvoir disputer la saison prochaine la Champions League. Et les autres matchs ont lieu cet après-midi, avec Angers qui recevra Strasbourg, Nice qui se déplace à Auxerre, Marseille qui essaiera de se rattraper de sa déconvenue à Nantes en se déplaçant au Havre, Metz accueillera Lorient. Un match important pour les places en Ligue européenne, notamment avec ce Monaco qui reçoit Lille. Paris Saint-Germain, quant à lui, recevra Brest. Paris FC se déplacera à Rennes. Et l'équipe de Lyon ira à Toulouse. Alors, Hugo, dans ces matchs-là, quels sont tes favoris? Es-tu un fan d'une des équipes de Ligue 1?
Du coup, depuis tout petit, moi, je suis un grand supporter de Lyon. Donc, j'espère qu'ils vont faire le travail contre Toulouse. Et comme ça assurera une place en Ligue des Champions aussi pour l'année prochaine. Ça va faire du bien de la retrouver.
Et on jouait aussi la dernière journée hier en Ligue 2 avec cette défaite de Annecy face à Rodez 2-1. Annecy, rappelons l'équipe de Thibaut Rambaud, le Saint-Aubinais, qui terminera à une très belle 7e place. Clermont s'impose face à Guingamp 1-0. Laval a disposé de Boulogne-sur-Mer 2-1. Match nul entre le Red Star et Montpellier 1-1. Saint-Étienne s'est imposé face à Amiens 5-0. Le Mans en déplacement à Bastia s'est imposé 2-0, mais le match a été arrêté à 1 minute de la fin. Grenoble s'impose à 3, 1-0. Victoire de Nancy à domicile face à Dunkerque 3-2. Et Reims s'impose à Pau, contre Pau, 5-3. Donc, Troyes et Le Mans joueront l'année prochaine en Ligue 1. Saint-Étienne, Restart et Rodez vont s'affronter en barrage, puis avec le club barragiste de Ligue 1. Et Bastia et Amiens descendent en Ligue 3.
On passe au championnat de National 2 dans la poule A. La victoire d'Angoulême-Charente face à Lorient 3-2. Les Herbiers sont inclinés sur la pelouse des Girondins de Bordeaux 1-0. Défaite de Bayonne à Châteaubriant 2-1. Match nul entre Granville et Avranches 1-1. La Roche-Vendée s'est imposée à domicile face à Chauray 4-1. Victoire de Saint-Malo à la maison face à Dinan-Léon 2-1. Le 7 Poitevin et Locminé ont fait match nul 1-1. Et puis match nul également 0-0 entre Saumur et Mont-Louis-Jean.
Et nous sommes en direct ce matin avec le coach de Saumur, Patrick Olive. Bonjour Patrick.
Bonjour Jean.
Merci d'être dans ce sport matin dimanche après cette avant-dernière journée de National 2 hier. Votre club Saumur était confronté à Mont-Louis, match nul 0-0. Votre analyse de ce match
On a bien réagi en équipe avec des super attitudes par rapport au non-match de la semaine dernière. Et puis, on a été très combatifs. On a été solide pour pas concéder et puis on a essayé de monter en régime et de pousser sur la seconde mi-temps pour faire pencher de notre côté, mais voilà, ça a pas été assez, ça a pas réussi. On a encore une fois tapé le poteau à domicile et donc on doit se contenter de ce 0-0.
Alors, il reste un dernier match maintenant pour atteindre l'objectif du maintien. Comment allez-vous préparer au cours de la semaine ce dernier match et qui vous amène à vous rendre à Bayonne?
Oui, on va être dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début de saison sur l'analyse vidéo du match passé mardi soir avant la séance d'entraînement. On aura 2 séances ensuite pour se projeter sur Bayonne mardi soir, mercredi soir. Et puis une séance vendredi matin pour affiner et puis pour mettre en place le plan de jeu avant de partir à Bayonne. On ne sait pas encore si on partira le jour du match ou la veille. On n'a jamais fait la veille et le club n'est pas censé le faire, mais bon, on va discuter de ça lundi pour voir comment on peut organiser au mieux ce déplacement.
Alors, en tant que coach, là, comment vous allez suivre du banc à Bayonne le match de Granville à Chauray, parce qu'il va être important ce match.
Oui, le match de Granville à Chauray, mais après, oui et non, parce que un match nul à Bayonne nous donne la 14e place, donc on ira pour gagner. Parce qu'on peut rattraper les équipes qui sont devant et éviter cette 14e place. Mais aujourd'hui, on est le meilleur 14e. Alors après, ça peut bouger sur la dernière journée. Mais un nul, en fait, ça va être hyper aléatoire. Il y a tellement d'aléas entre les différents groupes. Mais dans l'idée, c'est au moins de rester devant Granville et pour faire un match nul à Bayonne. Et donc, on n'a pas à s'occuper des autres résultats si on est dans cet objectif.
Merci Patrick et on va vous souhaiter une bonne semaine et puis ramener une belle victoire de Bayonne. Ce serait bien pour terminer la saison.
Exactement, c'est gentil, merci Jean.
Bonjour.
Et donc dans cette poule de National 2, eh bien la dernière journée sera décisive, notamment pour la montée en Ligue 3. Sont toujours les Lyonnais de La Roche-sur-Yon qui sont en tête avec un point d'avance sur les Girondins de Bordeaux. La Roche-sur-Yon se déplace, les Girondins de Bordeaux également. Donc il faudra suivre ces deux matchs pour savoir lequel des deux équipes ira en Ligue 3. Et puis, selon les déclarations du président de La Roche-sur-Yon qui prétend vouloir se baigner dans les larmes des Girondins. Bon, on verra bien cette histoire, si le bain sera réel ou pas. Et puis en fin de classement, eh bien Patrick Olive l'a dit, il faut absolument un très bon résultat de Saumur à Bayonne, mais il sera pas fondamental. Ça dépendra aussi du résultat de Granville à Choret. Donc pour la descente, seul le Stade Poitevin aujourd'hui est condamné à retrouver la Nationale 3, mais là aussi il y aura peut-être des dossiers financiers qui viendront interférer dans le classement. Hugo, tu suis un petit peu cette poule Nationale 2, une poule qui est très dense et puis très incertaine encore.
Ouais, du coup, comme un fan de foot, on suit un peu toutes les poules dans le coin, et avec cette montée là entre La Roche et Bordeaux, c'est vraiment passionnant à vivre. Ça va se jouer jusqu'au dernier match, et comme pour le maintien, ça va aussi jouer sur la dernière journée.
Et on passe maintenant, Patrice, à la Nationale 3, avec le résultat nul de la Châtellerault en déplacement à Angers, 2-2. L'UF Touraine s'impose à la 97e minute, 1-0 face à la réserve de Châteauroux. Chauvigny s'impose chez ses voisins de Châtellerault, 5-2. La réserve de Nantes s'est imposée sur le Poiré-sur-Vie, 2-0. Victoire de Chaland, déplacement à Saint-Philbert, 3-1. Et victoire des Sables face à Berthoud, résultat important pour les Sables, 2-0. Et puis Fontenay-le-Comte s'est imposé face à Panazol. On rappelle que Xavier Benoît a été désigné entraîneur pour la saison prochaine, mais qu'il a pris aussi la responsabilité de l'équipe pour ses deux derniers matchs. Victoire donc de Fontenay, 2-0, qui assure le maintien. Et nous sommes ce matin avec en direct avec Xavier Benoît. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci d'être dans ce Sport Matin Dimanche. Donc après ce match de Fontenay-le-Comte contre Panazol, alors avant de parler de ce match contre Panazol, dites-nous comment vous avez vécu un peu cette semaine avec cette prise en main anticipée de votre équipe, et quelles ont été les conditions et comment vous l'avez vécu.
Alors oui, alors c'est jamais simple, parce que c'était une équipe qui venait de qui était sur les 7 derniers matchs, sur 6 défaites et 1 nul, donc forcément avec des doutes, avec forcément aussi des incertitudes, il y avait quelques suspendus aussi, donc on a pris ça, on a eu 10 jours pour préparer ça. J'ai pris le groupe mercredi dernier, et puis avec les adjoints qu'il y avait, donc ils m'ont pas mal aidé, pas mal donné de conseils aussi, donc on a essayé de voir un maximum de joueurs, et voilà, on a essayé surtout de redonner confiance aux joueurs, et puis de voir l'urgence. On voulait surtout pas aller sur ce dernier match à Chauvigny en ayant le couteau sous la gorge. Donc la meilleure solution, c'est de gagner à domicile pour que le boulot soit fait, et c'est ce qui a été fait.
Alors votre analyse là de ce match contre Panazol, puis une belle victoire 2-0.
Oui, assez logique. C'est vrai qu'on a bien abordé ce match. On marque en premier temps assez rapidement, ça nous a fait du bien. Après ce deuxième but, en milieu deuxième aussi, nous a soulagé. Et après, on s'est fait une petite frayeur, parce qu'à 5 minutes de la fin, il y a le gardien fait vraiment une belle parade, et ce qui nous permet d'être assez serein sur la fin de match. Mais bah voilà, le boulot est fait, et heureusement, parce qu'on s'est aperçu que tout le monde avait derrière, et ça nous évite ce dernier match sous pression. Donc une très bonne chose.
Donc le dernier match, effectivement, contre Chauvigny, qui a battu Châtellerault, ça aurait pu être le match de la peur. Comment désormais allez-vous l'appréhender à votre équipe, ce dernier match?
Ben, je pense que le groupe, on sent qu'il y a une fatigue un peu générale. Ils ont fait un gros parcours en coupe, en se voyant éliminés contre le PSG. Et là, ils étaient vraiment sur une dynamique très compliquée. Donc là, je pense que ça a soulagé tout le monde, cette victoire. Donc voilà, on va y aller plus sereinement, et puis en espérant de continuer à enchaîner une deuxième victoire. On sait que Chauvigny va jouer son coup à fond, parce qu'il peut toujours être trop pêché en tant que 12e, parce que vraiment il y a des dépôts de bilan. Donc nous, ça va être pour aller sereinement, mais c'est pas pour ça qu'on va y aller avec des ambitions. Donc voilà, mais c'est important pour le club et les joueurs qu'on puisse gagner une semaine aussi, pour préparer aussi la saison prochaine, donc on va être en prévision de tout ça.
Alors justement, une dernière question, oui, est-ce que vous avez commencé à préparer cette prochaine saison, et il va-t-il y avoir une évolution significative de l'effectif de Fontenay-le-Comte?
Alors, c'est vrai qu'on avait commencé avec le préparateur physique, Gérard Nicole, travailler dessus. Alors là, on a eu en urgence que le président nous a demandé s'il voulait reprendre sur ces deux derniers matchs. Donc ce qui fait qu'on a mis en stand-by sur le recrutement ces 10 jours, parce que l'objectif était vraiment le maintien, parce que ça changeait vraiment la donne d'être en N3 ou en R1. Donc là, maintenant, on va continuer, c'était cette semaine. Et déjà, le meilleur recrutement, c'est de voir tous nos joueurs et de garder un maximum de joueurs. Et après, oui, forcément, on va compléter l'effectif par sans doute 4-5 joueurs. Voilà, on va essayer de compléter les vides et voir aussi par rapport au départ et où on peut améliorer l'équipe. Mais c'est vrai que ça a donné, même si on était sous pression, et ça me fait gagner aussi 15 jours d'avoir le groupe en main maintenant. C'est une bonne chose aussi, ça permet aussi de voir les joueurs aussi dans des conditions de compétition et un entraînement aussi plus régulièrement.
Merci Xavier d'avoir été dans Sport Matin Dimanche ce matin, et puis félicitations pour cette belle victoire et le maintien, et puis bonne préparation pour la future saison.
Merci beaucoup, au revoir.
Et dans cette boucle de la National 3, justement, une dernière journée qui va être décisive pour la montée en National 2, avec ce match du Poiré qui accueillera la réserve de Châteauroux, et puis l'Union Foot Touraine qui, elle, accueillera les tripes de Vertoux. Eh bien, ces deux matchs seront à suivre pour savoir qui du Poiré survit ou du F Touraine jouera l'année prochaine en National 2. Par contre, pour la descente à Régional 1, les trois équipes sont maintenant connues. Il s'agit donc de Châtellerault et Chauvigny, mais également de la réserve d'Angers, qui, elle, arrête complètement son activité sur décision du club. Et hier, tu étais à Angers voir tes copains de la Châtellerault. Ton point de vue sur ce match nul de 2-2.
Bon, je pense que déjà le résultat du 2-2, je pense qu'il est logique. Les deux équipes ont eu pas mal d'occasions et c'est terminé sur un 2-2, je pense que c'est normal. Après, c'est une équipe jeune et qui avait rien à perdre, donc ils ont joué leur jeu. En contre-attaque, ça allait vraiment vite et ils ont joué leur jeu. Et nous, je pense qu'on aurait peut-être pu arracher la victoire, mais le nul n'est pas volé.
Et puis, tu as vécu ce championnat très intense en National 3 avec des équipes dernières qui pouvaient battre les premières. Comment as-tu ressenti ce championnat là sur l'ensemble de l'année?
Moi qui venais du niveau R1, déjà ça m'a fait bizarre au début au niveau de l'intensité, la qualité technique, etc. Il y a vraiment une grosse marche avec la R1. Mais je pense que si on regarde le classement actuel, le classement pour moi il me paraît assez logique. Le Poiré et Tours étaient vraiment au-dessus, donc qui joue la montée pour la Nationale 2, moi ça me choque pas. Et après, il y avait deux championnats, quoi. Championnat du bas, tout le monde pouvait se battre, et la preuve, on a perdu aussi nous contre des derniers.
Sport Matin Dimanche avec Cyrière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
La seconde partie de ce Sport Matin Dimanche en ce 10 mai. On continue donc avec le football et le championnat de Régional 1 Pays de la Loire. Pouzauges toujours en course pour une éventuelle montée en N3 après sa victoire face à Orvault 2-0. Les buteurs ont Thomas Charriou et Gaëtan Charbonnier. Sablé et Saint-Nazaire en tête avec 46 points. Pouzauges est troisième avec 44 points en R2 dans la poule A. Jeudi, Poitiers s'est incliné à domicile face à Montmorillon 2-1. Vendredi, victoire de La Rochelle sur sa pelouse en recevant Beaumont 2-1. Hier, Dompierre et Ozon ont fait match nul à 2-2. Match nul également 3-3 entre Chauvigny et Avenir 119. Victoire de Cerisay sur le terrain de Thouars 2-0. Match nul entre Choré et FC 3 Vallée, 1-1. En Régional 2, toujours dans la poule C. Samedi, match nul entre Bassins et Niort-Saint-Florent, 3-3. Cet après-midi, Niort-Saint-Liguère reçoit le Boussard. Les enjeux, Jean, de la future dernière journée.
Des enjeux, il n'y en aura pas pour la montée, puisque Choré a assuré donc sa montée en Régional 1. Là, c'est la réserve de Choré, donc l'année prochaine jouera en National 1. On pense aujourd'hui que Beaumont-Saint-Cyr et Montmorillon, voire éventuellement Dompierre, descendront en Régional 3. Donc il faudra attendre cette dernière journée pour connaître exactement le nombre de descentes, sachant qu'il peut y avoir des implications par rapport aux catégories au-dessus, et notamment en National 3, la descente en Régional 1 de Châtellerault et Chauvigny, qui est pratiquement aujourd'hui actée. Hugo, Régional 2, résultat normal, la réserve de Choret a dominé cette poule, et puis Cerizet, qui était monté l'année dernière, qui se maintient.
Ouais, du coup, Choret, gros début de saison, ils avaient un gros effectif, du coup pas mal de joueurs de la N2 descendaient avec eux et ils ont pris pas mal de points. Là, sur cette fin de saison, ils lâchent un peu des points, mais bon, je pense que ça se comprend, ils sont déjà montés depuis un petit moment, donc félicitations à eux, N2 R1, c'est pas mal.
En Régional 3, maintenant dans la poule A, hier, au Nice Avenir et Buxerolles, victoire de Nice Avenir 2-0. Hervé Saint-Jean s'est imposé à la maison face au FC Outiz 3-2. Match nul entre la réserve de Bressuire et Nieul-sur-Mer. Un but partout cet après-midi. À suivre le SC Toircé face à Mini Auxances. Interbocage reçoit Mignalou et le Talu accueille le FC Rété. En R3 toujours, Jean.
Et en R3, oui, donc, dans cette poule A, la réserve de Bressuire jouera l'année prochaine en Régional 2. Match important pour l'Interbocage vis-à-vis de Mignalou-Beauvoir. Mais hier soir, le match de nul, Nieul-sur-Mer, peut-être empêcher l'Interbocage de rester l'année prochaine en Régional 3. Enfin, toujours un match important cet après-midi pour les joueurs de l'Interbocage. Dans la poule B, Lalleud-Lapalisse a battu Montcoutant en 3-2. Gatifoot a été battu par Saint-Sauveur. Bon résultat de Saint-Sauveur, 4-2. Noyer, le leader qui va certainement monter en Régional 2 l'année prochaine, bat La Rochelle 2-0. Et le FC3C s'est imposé, match important pour le FC3C dans l'objectif du maintien, s'est imposé par rapport à Sud-Gâtine, 1-0. Cet après-midi, Châtellerault accueillera ses voisins de Nintré et Aubin-Rortet se déplacera à Fontaine-le-Comte. Dans ces deux poules, la poule A et la poule B, Hugo, résultat logique, somme toute?
Ouais, je pense que les résultats sont logiques. Bressuire, avec quelques renforts de la R1, a réussi à monter. Et R1, R2, ça va être pas mal pour Bressuire l'année prochaine, je pense. Et dans l'autre poule, Noyer qui monte, il me semble, de D1 aussi.
Oui.
Ils font deux montées de suite et avec le faux pas de Gatifoot, du coup, là, ça assure la montée en Régional 2.
Puis une belle prestation de l'équipe de Montcoutant, qui est entraînée par Célio maintenant, qui est restée dans le premier tiers du classement.
Ouais, je pense que après une saison compliquée l'année dernière avec une descente, repartir 2-0 avec un nouveau coach, quelques nouveaux joueurs, ça fait pas de mal. Et là, la preuve, ce week-end, ils avaient quelques absents et il y avait 3 U18 qui étaient titulaires avec eux. Donc, les intégrer déjà, c'est pas mal pour préparer la saison prochaine.
Et dans la poule de cette Régional 3, le Pays Mélois s'est imposé à domicile face à Château-Larcher 2-1. Large victoire de Cognac face à Selbérine, 7-2 cet après-midi. Échiré Saint-Gelais accueillera Rochefort.
Dans les championnats départementaux en D1, jeudi dernier, le Pays Néo-Créchois s'est imposé 2-0 recevant Niort-Saint-Florent. Vendredi, victoire de Terve à Saint-Aubin-le-Clou, 2-1 à suivre cet après-midi. Le match entre Saint-Varan et Terve. Et si Terve remporte la rencontre, le club prendra la tête du championnat cet après-midi. Également, le Pays Saint-Mexanté reçoit Saint-Aubin-le-Clou. On passe à la D2, Jean.
Et d'abord, la D1, le club de Julien Aubineau, ton ancien coéquipier et buteur de Montcoutant, ce serait vraiment chouette pour eux de monter en Régional 3 pour l'équipe de Terve.
J'ai parlé avec lui vendredi, j'étais voir leur match. Et pendant un moment, ils étaient sixième, ils ne s'y attendaient pas de pouvoir monter. Et les équipes devant eux ont fait des faux pas, ça leur a bénéficié. Donc en gagnant encore ce match de retard, ils peuvent prendre un point d'avance et être premier de D1, donc ça pourrait être pas mal, je serais super content pour lui.
Et donc en division 2, effectivement, dans la poule Nord, vendredi, le Pays Argentonnais s'est imposé face à Aubin-Rortet 2-1. Large victoire des Comoriens de Bressuire par rapport à la réserve de Montcoutant, 8-1. Les Comoriens qui prennent la tête de cette poule Nord deuxième division. Dans la poule sud, jeudi dernier, match en retard, L'Union Sud de Sèvres a été défait par la réserve de FC Autise, 3-2. Victoire du FC Boutonnais face à la réserve de l'Avenir 79, 4-0. Vendredi, la réserve du Talus a battu la deuxième réserve de Choret, 2-0. Et cet après-midi, Brulin recevra la réserve du FC Autise et le Talus recevra Evrefort-Praec. Et enfin, l'Union Sud de Sèvres accueillera l'équipe de Beauvoir.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Après le football, le basket en Betclic Elite cet après-midi. Cholet, 6e du championnat à 2 journées de la fin de la saison régulière, reçoit Nancy, actuel 10e et dernier qualifié pour le play-in. Au match aller, les Lorrains avaient surpris les Choletais en s'imposant 91-87. Une rencontre encore dans toutes les mémoires. Les clés du match, selon le coach de CB, Fabrice Lefrançois, au micro colline de François Larue.
Nancy, physiquement, c'est une équipe qui est imposante, qui est tankée, notamment sur les joueurs extérieurs. Donc si tu réponds pas aux défis physiques, voilà. Maintenant, sur un match à domicile, j'espère bien qu'on va commencer beaucoup plus fort que ce qu'on a fait à Boulazac. On est vraiment concentré sur le process. Ouais. Le résultat n'est que la conséquence du process. Donc tu peux pas dire oui, j'ai envie de gagner contre Nancy et ne pas défendre ou ne pas faire de passe ou des choses comme ça. Donc d'abord le process et puis naturellement il y a des bonnes choses qui arriveront.
On arrive en fin de saison. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une marge de progression pour ce groupe ?
Ouais, parce que je trouve que par moment on pourrait être un peu plus chirurgicaux. Dire être dans la sanction directement. Par exemple, contre Boulazac, je trouve qu'on a eu beaucoup de bonnes situations qu'on n'a pas concrétisées sur des tirs ouverts ou sur des balles perdues un peu évitables. Donc voilà, mais à côté de ça, on fait le boulot en défense qui nous permet d'avoir une assise et de gagner les matchs même quand t'es pas en grande réussite, ce qui a été le cas par exemple à Boulazac.
Sur les baskets face à Nancy à l'espace Michel Léger cet après-midi, coup d'envoi à 16h30. Match à suivre bien entendu en direct et en intégralité sur Colline. Les commentaires seront assurés par François Larue et Vincent Durand. Auparavant, hier après-midi, les espoirs de Cholet Basket ont une nouvelle fois assuré en battant Nancy 81-65 à domicile. Ils ont ainsi décroché cette fameuse dernière victoire qui, à une journée de la fin du championnat et avant de se rendre à Nanterre le week-end prochain, leur permet d'être assurés d'être champion de France. Le meneur de ces jeunes Choletais, Aaron Touhoul, ainsi.
C'est juste, en vrai, collectivement, un travail, que ce soit du staff ou même de l'investissement des joueurs. Voilà, ça a été une saison accomplie. On est tous fiers et voilà, on va fêter ça, mais il y a une échéance qui arrive très rapidement. Mais là, on est sur la victoire, sur le championnat et voilà, on est champion de France. Très fier de mon équipe, très fier de mes gars. Et voilà, c'était pas un parcours facile, mais on l'a fait. Il y a le stress, il y en a qui n'ont jamais joué de match comme ça. Voilà, l'envie, l'adrénaline, on peut être un peu... avec moins de contrôle, mais bon, on a géré. Le plus important, c'est la victoire. Quand tu regardes notre début de saison, on ne perd pas beaucoup de matchs. Après, voilà, certes que sur le papier, ça se trouve, on n'était pas les meilleurs, mais on a prouvé justement que par le travail, voilà, on sait que Régis, c'est un gros technicien et qu'il sait gérer son équipe, les caractères différents d'une équipe. Et voilà, grâce à lui et grâce à l'investissement de tout le monde, je serais fier d'avoir fini comme ça, comme je vous ai dit, d'avoir ma bannière et qui sera affichée avec toute l'équipe. C'est des souvenirs qui restent à vivre. Voilà, on était devant le score et on est champion maintenant.
Un 9e titre de champion de France pour Cholet dans cette catégorie U21. Une consécration un peu inattendue pour l'entraîneur, même si l'engagement des jeunes pouvait laisser penser qu'ils allaient décrocher le Graal. Régis Boissier également devant François Larue.
Aujourd'hui, c'est un jour, on est très très heureux, mais ce qui est incroyable à vivre, c'est le chemin, c'est toute la saison, avec des moments de doute. Quand on lâche le match à Strasbourg, on se dit que vu les calendriers, enfin voilà, on va peut-être avoir un manque de souffle pour aller jusqu'au bout. Enfin bref, il y a eu des périodes un peu de doute. Et puis au contraire, par contre, ce groupe a répondu présent. Dès qu'il y avait des gros événements, je pense à Monaco ici, je pense à Dijon ici, on a vraiment dominé ces équipes-là. Donc ce groupe a une ressource mentale et psychologique énorme. Ben, quand la saison démarre et qu'on sent qu'on peut faire quelque chose, ben, on a ça en tête et on n'a qu'une pensée, c'est de se dire ça serait dommage de ne pas le faire alors qu'on peut le faire. Quoi. Et donc ça nous guide toute la saison.
Ça ne fait que confirmer que Cholet Basket est le meilleur centre de formation de France, en tout cas ces dernières années, puisque là depuis 2019.
Je suis mal placé pour dire si on est le meilleur. En tout cas, on a des résultats, on sort des joueurs, on gagne des titres collectifs. C'est évidemment beaucoup de plaisir.
Bravo en tout cas aux jeunes de Cholet Basket, forcément promus à un bel avenir dans cette discipline. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Toujours en basket, Jean.
Et on passe en Élite 2 avec des matchs qui ont lieu vendredi soir. Les Poitevins se sont imposés à Aix-Maurienne 81 à 79. Score fleuve pour Nantes à domicile face à Antibes 108 à 81. Chaland à domicile s'impose par sa grille au Souffel 91 à 84. Et La Rochelle a été défait à Blois 86 à 67. Hugo, on a vu là depuis le début de l'émission tes commentaires avec une grande connaissance du football. Tu t'intéresses aux autres sports, le basket par exemple ?
Ouais, le basket, je regarde surtout la NBA. Après, honnêtement, les championnats français, je regarde pas trop, mais la NBA, ouais, je suis vachement, j'aime bien.
Et puis, originaire de Montcoutan, t'as un œil aussi sur le hand, et peut-être des regrets pour les filles cette année qui vont descendre de National 2?
Bah, ouais, le hand, je suis pas mal parce que on a pas mal de copains avec le foot qui jouent au hand, et du coup, plus les garçons, on allait les voir souvent, mais c'est sûr que, vu où elles étaient avant les filles en national, faire deux descentes, c'est assez décevant pour le club de Montcoutin.
Espérant qu'elles auront les ressources avec leur formation pour remonter dès l'année prochaine. Et on passe en National 2 dans la poule B, Patrice.
Exactement. Hier, Niort s'est incliné à Brissac 88 à 63 chez les féminines. En pré-national, samedi, Bressuire s'est imposé à domicile face à Castillon, 62 à 37. À suivre cet après-midi, la rencontre entre Bred et Choré en régional 3, en play-off A. Le BC Cerisien hier s'est imposé en recevant Périgueux, 66 à 59. En play-off B, victoire de Cognac sur le parquet de Parthenay sur le score de 54 à 68.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Le rugby.
Et le rugby avec ce soir un match important pour les Rochelais qui se dépassent face au Racing de Paris. Une victoire serait nécessaire pour espérer encore peut-être être dans les 6 finalistes de cette saison. En handball, donc, belle victoire des Celloises qui sont toujours en tête de National 1 féminine pour monter en Ligue 2, donc face à Fleury, 27 à 18. Belle résistante des Montcoutantaises à déplacement à Saint-Nazaire, défaite 33 à 29. Et cet après-midi, celle sur Belle recevra Mérignac en National 3 en masculin. L'entente Nioraglo à domicile a été défait de justesse par Saint-Cyr, 40 à 38.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Elle a été au bout de son défi. Floriane Fazio, cette jeune femme de 33 ans, chargée de communication au SDIS de Vendée, tout en étant sapeur-pompier volontaire, s'est lancée dimanche dernier de son domicile à la chaise Le Vicomte en Vendée, en courant le matin et en marchant l'après-midi, pour rejoindre Terve, où demeurent ses parents, pour porter un message d'espoir face au cancer dont est malheureusement atteint son père. Membre du running loisir Vicomté, a donc couvert les 210 km en 5 étapes, avec une moyenne de 30 à 35 km par jour. À son arrivée vendredi après-midi à Terve, un comité d'accueil l'attendait pour saluer cette initiative. Floriane Fazio.
Ça a été 6 jours très riches humainement, parce que j'ai rencontré plein de gens que je connaissais pas, que j'avais pas revu depuis longtemps, voilà, qui se sont mobilisés.
J'ai entendu dire qu'il y avait un kiné qui est venu vous rejoindre à un moment ou à un autre pour vous aider, justement, pour apporter son soutien.
Oui, exactement. J'ai eu la surprise parce que moi, j'étais pas au courant, bien sûr. C'était assez gênant. Mais oui, il a accepté de venir et de me faire une séance pour me permettre de récupérer. Ouais, c'était très, très chouette. En fait, il y a eu une plus grosse mobilisation à partir de Saint-Paul-en-Gâtine jusqu'à la psy, parce que le centre de secours de la psy s'est mobilisé aussi. Et donc, ils ont fait un don de 400 euros pour la Ligue. Et donc là, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus aussi, les pompiers aussi de la psy.
Oui, parce que l'objectif, c'était pas en premier lieu de récolter des fonds, c'était plutôt apporter du soutien.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça. En fait, l'idée principale, ouais, c'était de glaner des messages positifs.
Et alors, ces messages, qu'est-ce que vous dites?
Alors, j'en ai reçu plein pendant le parcours, mais j'ai pas pu tout ouvrir. Donc, j'en ai reçu beaucoup en amont que j'ai pu mettre de côté, etc. Donc, il y a vraiment des très beaux messages. Il y a des messages de malades, de personnes malades, des messages de personnes aidantes qui se disent, ah ouais, c'est vrai que on se sent aussi parfois dans l'impasse pour essayer de motiver, rebooster une personne malade quand on est à proximité. Donc, en fait, on se rend compte que ça touche tout le monde et qu'on est tous à la recherche en fait de choses à véhiculer à nos proches pour essayer de les dynamiser, de voir que oui, certes il y a le traitement, mais on arrive quand même à trouver du positif et que en fait parfois les gens par maladresse s'effacent un peu, etc. Mais en fait ils sont quand même là, quoi, et ils nous aiment quand même, et voilà.
Donc, quel sentiment vous anime là aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions. Alors, j'essaie de me retenir parce que sinon, ça va être. Mais ouais, il y a beaucoup de joie parce que je suis très contente de voir qu'ils ont le sourire aujourd'hui. Donc, mes parents semblent contents, même si on est des gens qui on n'aime pas trop faire de bruit. Donc là, pour le coup, c'est un peu la loupé. Mais non, je les sens heureux. Je pense que ça a resserré des liens aussi avec de la famille et tout ça. Et puis, je pense que ça a pu pour certains aussi lever un peu un tabou. Parfois on ne sait pas trop comment aborder la maladie, on a des maladresses, etc. Et là je pense que ça a complètement décomplexé le sujet. Bon, il y a eu une période un peu compliquée en fin d'année là pour mon papa, et du coup je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que moi j'ai besoin d'extérioriser aussi, et parfois j'extériorise pas comme il faut non plus. Donc je me suis dit, il va falloir que je me canalise. Mon moyen de me canaliser, c'est le sport. Donc ben, je me suis dit, je vais lancer le truc. Et du coup, j'ai lancé ça en février pour le faire là. Donc,
Vous rentrez véhiculé?
J'espère, parce que j'ai pas de véhicule ici. Donc je sais pas pour le retour, en fait, si mes parents acceptent, ils vont me ramener. Sinon, il va falloir que je fasse contre-retour. Et...
Nous reviendrons d'ailleurs demain sur cette initiative de Florian, avec notamment le témoignage admiratif de ses parents qui ont réalisé d'ailleurs le dernier kilomètre à ses côtés lors de l'étape Partenay de Terre.
Et on retourne maintenant avec Hugo Baudin, donc dans cette fin de Sport Matin Dimanche. Quel a été le parcours scolaire d'Hugo Baudin depuis donc l'école de Montcoutant?
Ouais, du coup, après le brevet, je me suis dirigé vers un bac pro commerce. Mais bon, c'est pas trop ce que je voulais faire de base, j'ai toujours voulu être dans le sport. Du coup, après, j'ai été à l'IRSS à Cholet faire une prépa sport, et ensuite j'ai passé mon BPJEPS, et du coup avec le club de Montcoutant pour commencer à avoir les diplômes et travailler dans le sport. Et l'année d'après, j'ai passé le BMF avec le club de Noailles-les-Aubiers, et maintenant cette année je suis en apprentissage au sein du club, et en parallèle je suis éducateur des jeunes.
Donc éducateur, c'est un petit peu la vocation, éducateur entraîneur pour l'avenir?
Moi, c'est vraiment ce que je souhaite faire, parce que je me vois pas trop travailler dans un autre milieu que le sport, honnêtement.
Et puis, une question importante, on est à la fin de saison. Hugo Baudin, pour l'an prochain, c'est où et c'est quoi?
Bon, du coup, moi, l'année prochaine, je serai toujours à la Châtaigneraie, une saison de plus.
Et avec de l'ambition, peut-être ensuite de progresser, pourquoi pas regarder vers la National 2 s'il y a une opportunité. Comment tu vois ton avenir?
C'est sûr que moi, du coup, mon objectif, c'est de jouer le plus haut possible. Donc, après avoir la saison prochaine, mais pourquoi pas, s'il y a des opportunités en National 2, pourquoi pas essayer de la saisir.
Donc, de l'ambition, c'est bien pour un attaquant, il faut toujours avoir de l'ambition. Le club de la Châtaigneraie, la ville de la Châtaigneraie, 2600 habitants, un club en National 3. Comment tu as vécu avec le groupe un petit peu cette découverte de ce niveau national?
Déjà, honnêtement, je suis arrivé dans un club où je connaissais 2-3 personnes, donc ça m'a déjà facilité à m'intégrer. Ensuite, déjà, je pensais pas m'habituer aussi vite au niveau. Je pense que j'avais vraiment des craintes par rapport à ça. J'avais peur de pas être au niveau, de pas jouer, etc. Et au final, je pense que j'ai vraiment réussi à bien m'adapter et j'ai réussi à avoir un bon temps de jeu sur toute la saison et j'ai réussi à être décisif pas mal de fois et aider l'équipe. Donc, je suis vraiment content pour une première saison N3 alors qu'il y a 2 ans, j'étais encore en Régional 2. C'est super.